au psaume 139. Voilà, livre des psaumes, psaume 139. Et nous lirons à partir du verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je, loin de ton esprit? Et où fuirai-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Voilà, dans ce psaume, en tout cas dans les versets que nous venons de lire, le psalmiste célèbre, proclame l'omniprésence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le fait que Dieu est présent partout. Dieu est présent partout. Lorsque Salomon a bâti le temple de Jérusalem lors de la dédicace de ce temple, il a formulé une prière remarquable. Et dans sa prière, il dit, entre autres ceci, « Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, Seigneur, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Donc, vous voyez, Salomon est conscient que l'univers tout entier ne peut pas contenir Dieu. Et donc, on ne peut pas le limiter à un lieu précis, à un temple, à une église ou à un autre édifice religieux qui lui serait spécialement consacré. C'est pourquoi, parce que Dieu est présent partout, eh bien, on peut le rencontrer partout. Amen. On peut le rencontrer partout. On peut bénéficier de sa présence, même dans des lieux ou dans des circonstances insolites. Souvenez-vous, les trois amis de Daniel dans la fournaise ardente. N'est-ce pas? Quand le roi a regardé à l'intérieur de la fournaise, il a dit, nous avons jeté trois hommes au milieu du feu. J'en vois un quatrième. Et sa figure est comme celui d'un fils des dieux. Il se trompait au niveau de la conjugaison. Hein? C'était pas un fils des dieux, c'était le fils de Dieu. Ainsi, voyez-vous, la présence de Dieu était réel, était manifeste, au milieu même de la fournaise, avec ces trois garçons qui n'avaient pas hésité à livrer leur vie, s'il le fallait, pour honorer le Seigneur, refusant d'adorer un autre Dieu que lui. Joseph, le fils de Jacob, a connu bien des péripéties. Par exemple, l'Écriture nous dit qu'il s'est retrouvé esclave, et puis plus tard encore en prison, et dans le livre de la Genèse, l'Écriture nous dit qu'en prison, Dieu fut avec lui. Vous voyez? C'est vrai, il était en prison et il y est resté fort longtemps. Mais en prison, et c'est là le plus important, Dieu était avec lui. Je suis sûr que vous avez fait, les uns et les autres, en tout cas beaucoup d'entre vous, cette expérience que dans des circonstances insolites, étranges ou difficiles, dans des temps d'épreuve peut-être, alors même que vous ne vous y attendiez pas spécialement, la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu s'est manifestée, s'est révélée et vous a fortifié, vous a encouragé. Alors, cependant, bien que Dieu soit présent partout, il manifeste plus particulièrement sa présence sous certaines conditions et dans certaines circonstances. Par exemple, Dieu est au ciel. Ok, on est d'accord avec ça? Eh oui. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 66, le verset 1er de son livre, dira ceci, enfin c'est Dieu qui s'exprime au travers du prophète, « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. » Le ciel est mon trône, le ciel, le royaume des cieux, c'est donc par excellence le séjour de la présence de la gloire de Dieu. C'est là, au ciel, que se manifeste l'éclat, le rayonnement de tout ce qui constitue la personnalité de Dieu, son caractère, ses attributs, ce qu'il est, se manifeste en plénitude au ciel. Sa sainteté, sa justice, sa souveraineté, sa puissance, son amour, sa sagesse, son immutabilité, c'est-à-dire le fait qu'il ne change pas, etc., etc. Et un jour, gloire à Dieu, c'est là, au ciel, que nous irons le rejoindre. Amen. Et l'Écriture dit que nous le contemplerons tel qu'il est vraiment, tel qu'il est vraiment. Ses serviteurs, dit l'Écriture dans l'Apocalypse de mémoire, ses serviteurs le serviront et verront sa face et nous serons même rendus semblables à lui. Au fait, n'oublions surtout pas que le but, l'objectif suprême que nous devons poursuivre de toutes nos forces et par sa grâce, c'est atteindre le ciel, oui ou non? Que vous voulez aller au ciel? C'est tout simple, elle est primaire, hein? Cette question. Mais c'est là le plus important quand même. C'est là le plus important. Et nous ne devons pas perdre de vue cette réalité, vous voyez. Tout passera, tout passera. Tout ce qui a beaucoup d'importance pour nous aujourd'hui, nos activités multiples, vous avez les vôtres, j'ai les miennes, etc. Tout ça, ça passera. Mais seul demeure l'éternité qui nous attend. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, n'est-ce pas, de retrouver un joujou que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Vous avez fait ça. Hein? Peut-être pour les dames, une poupée. Peut-être pour les messieurs, je ne sais pas, un train électrique ou autre chose. Et à cette époque-là, quand vous étiez enfant, ce jouet avait une importance, mais une importance capitale à vos yeux. C'était extrêmement, extrêmement important. Et maintenant, ça n'a plus de valeur. C'est un souvenir qui vous fait sourire et qui n'a plus d'importance. Eh bien, voyons, on peut imaginer cela, en disant tout ce qui accapare notre esprit, notre énergie, notre temps, ici-bas, il y a tellement d'importance, c'est vrai, il ne faut pas négliger nos responsabilités humaines et terrestres. Eh bien, lorsque nous entrerons dans l'éternité, tout cela passera. Alors, c'est pour ça qu'il faut privilégier ce qui est le plus important, et moi, pour le plus important, c'est que je veux aller au ciel. Je veux retrouver mon Sauveur là où il m'a préparé une place et je lui demande que par sa grâce, il m'aide à persévérer dans ses voies. Mais par sa présence tout au moins, elle est d'ores et déjà assurée aux croyants par le Saint-Esprit. Alléluia. Et cela constamment, voyez. C'est le plus grand de tous les bienfaits. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, non? Pour ses grâces, pour ses faveurs, il nous bénit dans notre santé, il nous restaure, il pourvoit à nos besoins, il manifeste sa grâce sur notre famille, sur nos affaires matérielles et dans toutes sortes de domaines. Mais le plus grand de tous les bienfaits, qui finalement contient tous les autres, eh bien c'est ça, c'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est la grâce suprême, voyez. C'est une faveur imméritée que Dieu nous accorde d'être avec nous par le Saint-Esprit. On aime cette parole de Jésus, Jésus qui dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 20, n'est-ce pas? Eh bien, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais si on considère le contexte dans lequel ce texte a été rédigé, n'est-ce pas? Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, vous voyez, c'est dans le contexte du témoignage que le Seigneur nous assure particulièrement de sa présence. Quand tu parles de ta foi, quand tu évangélises tes amis, tes collègues, tes voisins, les gens de ta famille, quand tu fais part de ton espérance, ça n'est pas facile, c'est certain, mais le Seigneur est particulièrement avec toi, n'est-ce pas? Lorsque l'apôtre Paul s'est retrouvé à Corinthe, vous lirez cela dans le livre des Actes, au chapitre 18, au verset 9, hein, Hein? Il y a eu eh bien, des tensions, des conflits, parce qu'il y avait des gens qui s'opposaient vigoureusement à la prédication de l'apôtre. Et voici qu'une nuit, le Seigneur lui est apparu en lui disant, « Paul, ne crains point, parle et ne te tais pas, parle car je suis avec toi. » Et j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous voyez, le Seigneur est particulièrement avec nous. Lorsque nous avons cette vision de l'importance de la responsabilité de notre témoin de Jésus-Christ. Je suis dans ce monde, vous êtes dans ce monde, nous sommes dans ce monde, nous chrétiens, des ambassadeurs pour Dieu le Père. Le Seigneur a mis en nous le message de la réconciliation, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque nous nous acquittons de cette fonction, de ce rôle éminent que Dieu nous a décerné, délégué, et qui consiste à être ses ambassadeurs, ses messagers, ses témoins, eh bien, il est spécialement avec nous. Cette présence, elle demeure avec nous, et même plus en nous, par le Saint-Esprit. Autrefois, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que, eh bien, la présence de Dieu se manifestait dans le temple, particulièrement. Là, il y avait cet endroit sacré qu'on appelait le lieu très saint, oh là là, là Dieu se tenait, et seul le souverain sacrificateur, une seule fois par an, avait le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Et puis, n'est-ce pas, le peuple se tenait dans le parvis, il y avait une distance, il y avait un écran, il y avait une séparation, il y avait un voile. Tout le monde ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, gloire à Dieu, le voile est déchiré, et nous bénéficions tous de sa présence. Et sa présence, elle est en nous par le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus est bien clair à ce sujet. Dans ces chapitres 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean, il fait mention à plusieurs reprises du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et il dit ceci parce qu'il va partir. Il va souffrir la mort de la croix, ressusciter, puis être enlevé. Alors les apôtres sont tout chagrinés de savoir qu'il va les quitter. Mais le Seigneur leur fait une promesse. Il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et au chapitre 14, donc au verset 15, voici ce que Jésus dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Voyez, notez la progression. Non seulement avec, mais plus encore, en vous. Non seulement à côté, non seulement proche, mais à l'intérieur de ta vie, de ton cœur, n'est-ce pas? Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, hein, l'apôtre dira, ne savez-vous pas, donc nous devrions le savoir, j'espère que vous le savez, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui demeure en vous et il agit. Il ajoute que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, la conséquence du fait que le Seigneur demeure en nous par son esprit, c'est que nous ne sommes pas en mesure de faire de notre vie n'importe quoi. Un chrétien a une vie centrée sur Christ, consacrée au Seigneur, vouée, offerte à Dieu. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Il nous a acquis. Il nous a rachetés au prix de son sang versé à la croix du calvaire. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes mis à part. Nous sommes devenus sa propriété. Et nous n'avons pas le droit, c'est ainsi, de faire de notre vie ce que bon nous semble. Non, mais ce que bon lui semble. Et c'est pour cela qu'il est venu nous sceller de son esprit, n'est-ce pas? Ah, l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Romains, chapitre 8, au verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Voyez, la demeure intérieure du Saint-Esprit, La présence de Dieu en nous par son esprit, c'est la garantie, c'est la preuve, c'est la démonstration de notre salut. C'est différent du baptême dans le Saint-Esprit, ça. Hein? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une communication de puissance en vue du service. Voilà. Et si quelqu'un parmi nous ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, ne pensez pas que vous êtes des chrétiens de seconde zone, de seconde classe. Non, 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 pas du tout. C'est une bénédiction, certes, que Dieu veut vous accorder le baptême du Saint-Esprit pour que vous soyez ses témoins, on l'a dit tout à l'heure, et vous avez part à cette promesse, saisissez-la par la foi. Mais ne pensez pas que vous êtes exclus pour autant de la grâce. Non, à partir du moment où vous avez ouvert votre cœur, vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en vous. D'ailleurs, ce n'est pas possible de se convertir sans l'action du Saint-Esprit. Hein? La nouvelle naissance, elle s'opère, nous dit l'évangile de Jean, chapitre 3, quand Jésus parle avec Nicodème, par le Saint-Esprit, il parle de celui qui est né de l'Esprit. Né de l'Esprit, n'est-ce pas? Voilà, c'est une réalité. Et désormais, notre corps, répétons-le, est le temple du Saint-Esprit. Quelle merveille! Alléluia! Est-ce que nous mesurons bien ce fait? Quand je me déplace, eh bien Dieu se déplace avec moi. Il est avec moi. Il est en moi. Partout où je vais, n'est-ce pas? Dans toutes les circonstances. Là, à l'intérieur, sa présence, elle est notre privilège. Mais aussi, puisque nous parlons de la présence de Dieu, il faut se rappeler que cette présence, elle est assurée lors des rassemblements des croyants. Quand je parle des croyants, je parle là, non pas de ceux qui disent, vous savez, je suis croyant, mais pas pratiquant. Non, je parle là de ceux qui sont d'authentiques disciples de Jésus. Quand ces gens-là se rassemblent, le Seigneur se plaît. Il prend plaisir à manifester parmi ces gens-là sa glorieuse présence. Déjà, dans l'Ancien Testament, tenez, dans le livre des psaumes, au psaume 133, nous avons médité sur ces versets il y a quelque temps, il est écrit ceci, « Voici, ô qu'il est agréable !» J'espère qu'il vous est agréable de venir ce matin ici. J'espère que ce n'est pas une corvée, vous n'êtes pas levé ce matin en disant « Oh là là, aïe aïe aïe, c'est dimanche matin, va falloir que j'aille au culte, hein. Sinon le pasteur va me téléphoner dans la semaine. Alors pour éviter ça, les histoires, les problèmes, allez, on va s'y traîner. » Non, j'espère que vous êtes venu avec un autre état d'esprit, hein. Je suis dans la joie quand on me dit, allons. Voilà, le psaume 133. Voici au qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Et un petit peu plus loin, il est dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Voilà, est-ce que vous aimez la bénédiction de Dieu? Qui ne veut pas être béni de Dieu ce matin? Levez la main. Tout le monde veut être béni de Dieu. Vous faites bien. Eh bien, si vous voulez être béni de Dieu, soyez là où il a choisi de la répandre. Et il nous dit que c'est là, quand des frères et des sœurs se rassemblent, qu'il envoie sa bénédiction. C'est pourquoi il ne faut pas fuir la communion fraternelle. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il ne faut pas jouer, comment dire, l'église buissonnière. Hein? Voilà, dans la famille, alors que mon beau-père était déjà un homme d'un âge avancé, nous avons découvert, il n'avait jamais dit ça à personne, que pendant 3 mois, dites, alors qu'il était collégien, il avait fait l'école buissonnière. Et il s'était bien gardé de le dire à toute la famille. 3 mois, quand il était un ado, hein, je ne sais pas comment il s'est tiré d'affaire de ce mauvais pas. Mais enfin, le fait est là. Et il y a parfois des chrétiens qui font l'église buissonnière. Eh bien, c'est un mauvais principe. On peut trouver toutes sortes de raisons. On peut trouver toutes sortes de prétextes. Mais le Seigneur a dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alors moi, je veux être là où Dieu a choisi d'être. Alléluia. Vous savez, il y a un homme dans la Bible. Il n'était pas là. Et il l'a regretté. Thomas, vous connaissez Thomas? Hein? Il y a beaucoup de gens qui se réclament de Thomas. Mais Thomas, il est quand même le premier qui a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Et Thomas n'était pas là lorsque Jésus est apparu. Lorsque Jésus était là, Thomas n'était pas là. Alors les autres, tout émoustillés, quand ils l'ont rencontré, ils ont dit, Thomas, il est vivant, il est ressuscité. Tu sais, on l'a vu mourir sur la croix, agoniser. C'était affreux, on l'a mis au tombeau, mais on t'assure, c'est vrai, il est vivant. Et Thomas est resté de marbre. Moi, et si je ne touche pas, si je ne mets pas ma main dans ses plaies, et si, il n'était pas là. La fois d'après, quand même, il était là. Et parce qu'il était là, eh bien, son incrédulité, gloire à Dieu, a pu fondre comme neige au soleil. Alors, soyons là, ne vivons pas la mésaventure de Thomas. Hein? Dans l'évangile de Matthieu, on retrouve ce schéma, ce principe, vous savez, dans Matthieu chapitre 18 et le verset 20, tout ça, ce sont des passages, des textes évidemment bien connus. Voilà ce que le Seigneur nous dit, hein, chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là, voyez encore là, où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Il s'agit là de la prière commune, collective. Combien c'est important. Les premiers chrétiens, ils savaient faire ça. Hein? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières. Par exemple, Actes chapitre 4, quand on les a menacés en disant « Nous vous interdisons formellement de prêcher au nom de Jésus ». Alors, l'Écriture dit « Les apôtres, après avoir été relâchés par le Sanhédrin, ont été vers les leurs ». J'aime bien cette expression, les leurs, leur famille, voyez, leur assemblée, leur église. Et ils ont raconté ce que les principaux sacrificateurs, les autorités religieuses avaient décrété. Alors, et l'Écriture dit, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit à tel point que le lieu même dans lequel ils se trouvaient s'est mis à trembler. Et suite à cela, remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient avec assurance la parole de Dieu. Voyez, quand le Saint-Esprit, quand les croyants se rassemblent, le Saint-Esprit se plaît à manifester sa présence. Il est là. Alléluia. Jésus l'a dit. Bien sûr, il y a également, et peut-être même avant tout, la piété personnelle. Voyez, on vient de parler de la piété collective, la vie de prière de l'Église. Moi, j'ai besoin de prier avec l'Église. Je ne peux pas m'en passer, mes amis. Pas seulement parce que je suis pasteur, ça n'a rien à voir. Avant d'être pasteur, je suis un chrétien. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Mais j'ai besoin de m'associer à mes frères, à mes sœurs dans la prière. Ça me fait du bien. C'est important parce que je sais que Dieu est là. Mais il y a aussi cet aspect, donc, de notre piété qui doit être personnelle. Matthieu chapitre 6, verset 6. Ça t'arrive de prier? Vous savez, il y a prier. Hein? Il y a le pharisien qui priait, qui disait, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, rien que ça. Il y a celui qui prie d'une manière formaliste, liturgique. Voilà, on est chrétien, on a l'habitude au petit déjeuner le matin de dire, Seigneur, bénis cette journée, merci pour ce repas, alléluia, amen. C'est bien. Mais si c'est toute votre vie de piété, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Il faut prendre le temps. Un ancien président de la République disait qu'il faut donner du temps au temps. Et s'il y a un temps au temps à donner, c'est bien le temps que nous devons consacrer quand même à la prière. Prenez le temps. Prenez le temps. Quand tu pries, dit Jésus, entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Il y a une version qui dit... Va dans la pièce la plus reculée. Verrouille la porte derrière toi. Voyez, pour être seul là, avec Dieu. Et prie ton Père qui est, si on y revient, là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Et on peut déballer là tout ce qu'il y a sur notre cœur. nos besoins, nos soucis, nos chagrins, nos joies aussi. On peut l'adorer, on peut le prier, on peut avoir contact avec lui, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. J'aime la présence de Dieu. J'aime ces moments où le Saint-Esprit vient vers moi. Ce n'est pas toujours facile la prière personnelle, c'est pas vrai? Il y a des moments, enfin, dites-moi-le, ou alors il n'y a que moi qui suis comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une chape de plomb au-dessus de ma tête. Je prie, j'essaie de prier, mais ouh, que c'est difficile. Et puis d'autres fois, waouh, l'Esprit de Dieu vient, il enflamme mon cœur. Et je chante, et je loue, et je célèbre, et j'adore le Seigneur, et je bénis son nom, et je lui expose les problèmes qu'on peut rencontrer, les miens, ceux de l'Église, etc. Que c'est bon d'être là, dans le lieu secret, avec Dieu. Vous voyez, c'est ça qui fait le chrétien, c'est ça qui nous donne du punch, qui nous donne des vitamines spirituelles. Peut-être, et même sûrement, que la faiblesse et la vulnérabilité de certains chrétiens, je parle de faiblesse et vulnérabilité spirituelle, vient du fait qu'ils ont oublié ou négligé d'entrer dans le lieu secret. Avez-vous un lieu secret? Avez-vous un temps où vous êtes avec Dieu journellement? Oh, c'est sûr, les activités professionnelles, etc., et tout le reste, vous ne pouvez pas y consacrer des heures et des heures et des heures. Mais un petit moment. Et puis peut-être dans une journée de libre. Pourquoi pas? Plutôt que d'aller batifoler et faire n'importe quoi. Pourquoi pas un jour de congé, consacrer un petit peu plus de temps que d'habitude au Seigneur, dans sa présence. Parce que tu aimes la présence de Dieu. Hein? Parce que tu recherches. Vous savez que Dieu a plaisir à être avec nous? Dieu se définit comme étant notre ami. Hein? Abraham fut l'ami de Dieu. Voilà. Je vous appelle mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Quand on a des amis, des vrais, pas des connaissances, des amis, on se plaît à passer du temps avec eux, non? Un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, quand on le revoit, oh, on a tellement de choses à échanger, et le temps passe si vite, n'est-ce pas? Eh bien, si Dieu est notre ami, on doit prendre plaisir à être avec notre ami. En tout cas, lui prend plaisir à être avec nous. Il ne va pas dire encore lui, oh là là, il est déjà venu hier. Non, ce n'est pas le style de la maison. Hein. Il nous accueille, il nous reçoit dans sa présence. Alors, qu'est-ce que c'est qui peut éloigner de nous la présence de Dieu? Le péché, bien sûr. Le péché, tout d'abord, éloigne Dieu de nous et nous éloigne de Dieu. Dans les deux sens, c'est vrai. Adam et Ève, quand ils ont péché et qu'ils ont senti que Dieu s'approchait, se sont cachés, ils ont dit « j'ai eu peur ». Et oui, ce Dieu avec lequel ils entretenaient une communion, une relation si étroite maintenant, devenait, comment dire, distant, devenait effrayant, voyez. On peut parler de Caïn, qui parce qu'il a commis ce meurtre, eh bien, s'en est allé vivre dans le pays de Nod. Ça veut dire exil. Le péché nous exile, loin de Dieu. Loin de Dieu. On pourrait parler de Samson, qui avait péché, et lorsque les Philistins sont venus le saisir, alors que Delila, cette mauvaise femme, avait taillé ses cheveux, signe de sa consécration, il a dit, oh, je m'en tirerai comme les autres fois, vous allez voir ce que vous allez voir. On a vu, hein. Il ne savait pas, dit l'Écriture, que l'Éternel s'était retiré de lui. On pourrait parler de Saül, le roi, pourtant le roi. Il est dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Quelle tragédie, mon Dieu, quelle tragédie. On pourrait mentionner toutes sortes de circonstances, de personnages, pour lesquels, eh bien, le péché a fait que la gloire s'est retirée. Dans le livre d'Ézéchiel, on voit la gloire de Dieu quitter le temple. Quitter le temple. Dieu livre Israël, le peuple de Dieu, le peuple élu, en pâture à ses ennemis. Il se retire parce que le péché l'a offensé. L'a offensé. Et vous voyez, pour un croyant, pour une église, c'est pareil. Si le péché est pratiqué allègrement, Dieu retire sa présence. Le péché, mais aussi la négligence. Je suis toujours interloqué quand je lis ce texte de l'évangile de Luc où il est question de Jésus qui avait 12 ans. Vous vous rappelez ? Alors avec les parents, ils montent à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et puis Jésus reste à Jérusalem. Et les parents de Jésus reprennent, comme si de rien n'était, le chemin du retour. Ça ne vous étonne pas, ça ? Moi, il me semble que si mon gamin ou ma gamine de 12 ans, au moment de partir, de revenir à la maison, il y avait quand même des dizaines et des centaines de kilomètres, n'était pas là, ben, je l'aurais cherché jusqu'à ce que je le trouve. Mais eux, ils ont pris la route. Et chemin faisant, vous n'avez pas vu Jésus ? Non, 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 on n'a pas vu. Et ça a duré toute une journée jusqu'à ce qu'il s'affole un peu quand même. Je dirais qu'il y a non-assistance pour personne en danger, là. Hein. Il y a une déresponsabilisation des parents. Il va falloir appeler la DAS. Hein, parce qu'ils ne se sont pas inquiétés. La négligence. Et au bout de 3 jours, ils l'ont trouvé dans le temple. Ils l'ont trouvé dans le temple. Vous voyez ? La négligence. Et des fois, ce n'est pas qu'on a péché à proprement parler, mais on a négligé le Seigneur. On a négligé le Seigneur. Vous savez, la vie chrétienne, je voudrais vous en persuader, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas un petit engouement passager, c'est une affaire sérieuse. Et s'il en est au milieu de nous qui s'apprête à prendre le baptême, béni soit Dieu, réalisez ça, que la vie chrétienne, c'est une affaire sérieuse. Le Seigneur nous dit que, eh bien, il ne faut pas commencer à poser le fondement et puis ne pas achever la construction. Il faut aller jusqu'au bout. C'est une affaire sérieuse. Je me répète volontairement. Un texte de l'Écriture dit que celui qui se relâche dans son travail, il est le frère de celui qui détruit. Une autre version dit, c'est encore plus précis, celui qui se relâche dans son travail, il est le compagnon du destructeur. Vous savez qui c'est le destructeur ? Qui c'est ? Eh bien, le diable. Hein ? Et dans ce livre des Proverbes, il y a cette parole pleine de bon sens. Dans le livre des Proverbes au chapitre 24, et à partir du verset 30, je vais vous lire ça. Pas, peut-être ça peut s'afficher. Voilà ce qui est écrit. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette, c'est-à-dire la famine, comme un homme en armes. Et il faut appliquer ça au domaine spirituel. Voilà. Voilà quelqu'un qui ne se faisait pas de soucis, hein, mais le mur de pierre était écroulé. Mais les ronces envahissait le champ, mais les épines y croissaient partout. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de négligence, un peu. Et la pauvreté spirituelle te surprendra. La famine, ton âme va mourir de faim si tu négliges la présence de Dieu. La présence de Dieu. Le péché, la négligence, la tiédeur aussi. Ça marche un peu avec. Hein. Vous vous rappelez la Odyssée, l'église de la Odyssée. C'est drôle. Hein. Il n'est pas question d'adultère. Il n'est pas question de vie de débauche parmi les chrétiens de la Odyssée. Il n'est même pas question d'erreurs doctrinales flagrantes, comme dans d'autres églises. Non. Mais ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur, c'est que tu es tiède. Puisses-tu être froid ou bouillant parce que tu es tiède, parce que tu te satisfais de ce que tu as. Je te vomirai de ma bouche. Ce n'est pas flatteur, hein, mais c'est évocateur. Je te vomirai. Parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Tout va bien. Tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te conseille, dit le Seigneur, d'acheter de moi, etc., etc. Vous lirez ça dans Apocalypse 3, voyez. La tiédeur, la tiédeur. Est-ce que mon frère, ma sœur, peut-être pour certains, la tiédeur n'est-elle pas le lot de ton cœur? Autrefois, tu étais fervent en esprit. Autrefois, il y avait une flamme. Il y avait un zèle ardent. Mais maintenant, oh, tu as pris du recul. Et puis, tu as été déçu par les chrétiens, par le pasteur, par l'Église. Mais oui, qui ne l'a pas été? Alors, tu as trouvé prétexte pour te mettre en retrait, la tiédeur. Et ça fait que la présence de Dieu, ben, c'est plus qu'un souvenir. C'est plus qu'un vestige. Tu as vécu ces temps où tu bénéficiais de sa présence. C'était bon, c'était bienfaisant. Et quelque part au fond de toi, ton âme te dit, je voudrais retrouver ça. J'ai besoin de toi. Alors, quel est le remède? Il y en a un. Il y a une bonne nouvelle, alléluia. C'est qu'il est possible de bénéficier à nouveau pleinement de la présence de Dieu. Comment? Par la repentance. Dans ce texte d'Apocalypse 3, Jésus dit, « Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Je souperai avec lui et lui avec moi. Autrement dit, le contact sera renoué. La communication sera rétablie. La communion sera rétablie. Vous voyez ? C'est quand même terrible. Cette église de Laodicée avait réussi ce triste exploit de mettre Jésus, où ça ? À la porte. Il est dehors. Il n'est pas dedans, puisqu'il dit « Je suis à la porte. Il faut que tu me laisses entrer. » La tiédeur de ces gens-là, on y revient, a éloigné le Seigneur, mais il est là quand même, à la porte, pas loin. Et il voudrait tellement entrer. Mon frère, ma sœur, si quelque part, d'une manière ou d'une autre, tu te reconnais là-dedans, le Seigneur ne veut pas t'abandonner à ton sort. Alléluia. Il est plein de miséricorde et de grâce. Amen. Et il dit, repens-toi. Il dit, reviens à moi. Il dit, fais comme le fils prodigue. Vous savez, cette parabole du fils prodigue, on l'applique souvent aux inconvertis, aux païens, aux pécheurs qui n'ont rien jamais connu des choses de Dieu. Mais elle s'applique aussi aux croyants qui se sont éloignés de la maison du Père, qui se sont éloignés de la présence de Dieu. Et le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, c'est la conversion. Ah, mais je me suis déjà converti. Eh bien, on se reconvertit des fois. Et le Seigneur accueille. Et le Seigneur redonne une place à ce fils, une place honorable. Il réintègre pleinement la famille. Ah, la présence de Dieu. Oui, on la retrouve par la repentance. Disons ceci, en précisant les choses, c'est que la repentance ne se limite pas à la confession. L'apôtre Jacques nous parle de celui qui se met à l'œuvre. Et il dit que celui-là sera heureux dans son activité. Il y a quelque chose à faire. Il y a parfois des choses à corriger, à rectifier dans notre vie intérieure ou dans notre comportement extérieur, à remettre en ordre. Ça fait aussi partie de la repentance. Et c'est aussi ce qui permet au Seigneur de manifester à nouveau pleinement sa présence. Il faut se souvenir encore. Laissez-moi quelques minutes. Que l'épreuve même la plus terrible n'est cependant pas la preuve absolue que Dieu n'est plus avec nous. Hein? On peut en voir de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres, comme on dit, et pourtant Dieu est là. Romains chapitre 8, vous connaissez ce passage, où il nous dit que rien, ni la mort, ni la vie, etc., ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni la persécution, ni l'angoisse, ni enfin rien, ni les épreuves, rien, mais rien alors, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Même si tu passes par l'épreuve, ce n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. On l'a dit tout à l'heure, dans la fournaise, il était là avec les trois amis de Daniel. Peut-être qu'il y en a qui ont l'impression de passer par la fournaise. Ça brûle de toutes parts. Mais si ça brûle autour, ça ne te brûlera pas toi. Parce que les amis de Daniel, dans la fournaise, ils ont été épargnés par le feu. Même pas l'odeur du feu les a atteints. Vous voyez ? Parce que le Seigneur était avec eux. Dans la fournaise de l'épreuve, il est avec toi. Et il veut y rester. En terminant, je dirais ceci. C'est qu'il y a une différence à faire, quand même, aussi. Entre la réalité de sa présence, voyez-vous, et le sentiment de sa présence. Il peut arriver, que sans que nous ayons particulièrement péché, nous ne ressentions plus sa présence. Dieu permet parfois que sans que nous ayons particulièrement péché ni négligé quoi que ce soit dans notre vie spirituelle, nous passons par un temps de sécheresse. C'est une expérience difficile. Difficile. Mais qui est destinée, parce que Dieu maîtrise tout, à faire mûrir notre vie intérieure. Voyez, c'est l'expérience que Job a vécue. Hein, je ne cite pas les versets précis, mais dans le livre de Job, Job, à un moment, il s'écrit, il dit, « Mais Seigneur, mais tu es où là-dedans ?» Il a vraiment l'impression que Dieu l'a abandonné. Voilà. Que ses amis le critiquent, c'est pas sympathique, c'est pas plaisant, mais c'est pas le plus grave. Les épreuves qui sont là, c'est affreux, mais c'est pas le plus grave. Mais la présence de Dieu lui est ravie, alors qu'est-ce qui se passe? Et vous savez quoi, on fait? Dieu n'a jamais cessé d'être avec lui. Simplement, il y a eu un moment où Job n'a plus le sentiment de la présence de Dieu, sans qu'il ait spécialement péché. Heureusement que les choses n'en sont pas restées éternellement là et qu'il est venu un moment où Dieu a fini, n'est-ce pas, par se manifester pleinement, lui parler, le renouveler et lui montrer qu'il avait été toujours là. Ce fut un test pour la foi de Job. Un rude test qu'il a passé avec succès. Vous savez quoi? Il y a un verset où Job dit ceci, Job chapitre 13, verset 15. Même s'il me tuait, Dieu, j'espérerai en lui. Waouh! Même s'il me tuait, j'y comprendrai peut-être plus rien, mais moi je continuerai à lui faire confiance. Ça, c'est un homme de Dieu. Et plaise au Seigneur que nous devenions des hommes et des femmes de cette trempe-là. Alors, je laisse un dernier verset sur votre cœur en conclusion. C'est ce verset que nous trouvons, ces versets que nous trouvons dans le livre des Psaumes encore, au chapitre 42, au verset 1er. Il y a une image très évocatrice là. Au chef des chantres, Psaume 42, verset 1, chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Voilà un homme qui aime la présence de Dieu. Soyons de cela, frères et sœurs. Aimons, cherchons, désirons et conservons en nous, par sa grâce et par son esprit, la présence de Dieu en nous. En tout cas, tel est son désir. Et que notre âme puisse y aspirer intensément. Que le Seigneur nous bénisse et que son nom soit loué. Amen. Notre Dieu,